Et avec Alain, eh bien, on s'était mis d'accord sur deux héros de l'épître. Et alors, c'est des héros pas ordinaires. Donc voilà. Alors pour nous, ce sera Jephté. Jephté, donc dans Juges chapitre 11. Mais vous savez, je vous ai dit que les héros dont le Seigneur parle sont pas ceux que les hommes choisissent. Je ne sais pas si vous connaissez Ethel Waters, qui est né en 1898 de sa jeune mère. Sa mère n'avait que 13 ans et c'était le résultat d'un viol. Mais en 1920, eh bien, elle commence une grande carrière musicale. Et elle est connue dans le monde du jazz et le monde des blues. Et elle devient professionnelle, elle reçoit les grands honneurs et tout cela. Mais en 57, elle se présente à une campagne d'évangélisation de Billy Graham. Et c'est là qu'elle consacre sa vie à Dieu. Et à partir de 1957 jusqu'à sa mort à l'âge de 80 ans, donc en 77, elle va chanter pour le Seigneur avec une très belle voix, et certainement qu'elle est beaucoup connue pour avoir chanté ce chant His eye is on the sparrow, son œil est sur le moineau, et sur cette parole du Seigneur, que le Seigneur veille sur nous. Mais c'est juste pour dire que, vous savez, le Seigneur peut prendre une personne très ordinaire et en faire un héros de la foi. Et c'est un peu le cas que nous avons ici avec Jephté. Dans le chapitre 11, nous voyons que les commencements de Jephté, début de sa vie, ben, c'est assez triste quand même comme situation. Très rapidement, il nous dit: Jephté, le Galadite, était un vaillant héros. Il était un vaillant héros. C'est la Bible qui le dit. Et il reçoit le même titre d'honneur que Gédéon. Hein, c'est quand l'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, il lui dit: vaillant héros. Et Gédéon était assez surpris de cela. Mais donc, vaillant héros. Et on peut s'imaginer dans la tête, mais la phrase suivante, eh bien, le situe. Il dit: il était le fils d'une femme prostituée. Et voilà les commencements. Vaillant héros du Seigneur. Et dans sa naissance, eh bien, c'était quelqu'un qu'on méprise, hein, même à l'époque, c'était mal vu. Donc il grandit chez son père, sans sa mère. Son père se marie, il a des enfants, ses enfants grandissent, et arrive un temps où il nous dit qu'au verset 2, la femme de Galaad lui enfanta des fils, devenus grands, chassèrent Jephté et lui dirent: tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Donc il grandit sans maman. Et la maman des autres, eh ben, c'est bon. Je vous laisse, certains ont vécu cela, ils savent ce que c'est que de grandir dans une famille d'avoir une mère, sans avoir sa mère, et se contenter des bontés de la mère des autres. Il grandit comme cela, mais il arrive à un certain âge. Mais comme il est le premier-né, ben, c'est lui qui est l'aîné. On va devoir lui donner une double portion de l'héritage. On va devoir le respecter toute sa vie. Eh bien, les autres, ils ont dit: non, 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 il faut qu'il dégage. Et on va le chasser. Et c'est étonnant parce qu'on n'a aucune mention du père et sa réaction. Et je ne sais pas s'il est mort quand ils le font ou ce qui arrive, mais il est obligé de partir. Et c'était pas plus facile à cette époque-là que maintenant, hein, quand on se retrouve dans cette situation et tout d'un coup, tu es dehors. À l'époque, il n'y avait pas les foyers, il n'y avait pas des assistantes sociales pour nous aider. Hein, on se débrouille comme on peut. Et ça c'est Jephté, c'est les débuts de Jephté. Et je vous laisse imaginer ce qu'on peut ressentir. Déjà, il a certainement souffert toute sa vie du mépris, Hein, parce que s'il a grandi, grand, ils ont pensé cela, c'est que ils l'ont pensé depuis un certain temps. Et Jephthé doit quitter. Il est chassé, il part à vide. Et il se rend dans le pays de Tob, qui veut dire la terre fertile, hein, la bonne terre. Il part et là, il essaie de refaire sa vie. Il nous dit que au verset 3, Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait avec lui des coups de main, ou les 400 coups, hein, où c'était devenu une troupe qui faisait certainement des hold-up, des bandits de grand chemin, et des choses comme ça. Hein, c'est comme ça qu'il fallait, hein, quand on n'avait pas, on vivait comme ça. Il avait rassemblé du monde qui s'était trouvé dans la même situation, et ils se sont tous joints ensemble, ils ont fait une troupe. Et qui essayait de vivre comme il pouvait. Hein, Et avant d'être trop dur avec lui, d'abord on dit, mais bon, quel choix est-ce qu'il avait, hein, quand vous êtes dans une situation, dans une société où on dépend beaucoup des parents, tu es de quelle famille, qui est ton père, c'est difficile. Hein, j'ai grandi en Afrique du Nord et c'est un peu ça aussi là-bas. Hein, si, t'as pas ta famille, c'est qui ta famille? Tu peux ni te marier, ni avoir du travail, ni avoir une maison, tu es fils de qui? Et c'est la vie difficile. C'est le rejet total. Et Jephthé, il vit cela. Et donc, il rassemble du monde qui se trouve dans la même situation et qui essaye de vivre, faire comme ils peuvent. Hein, au mieux, c'est le Robin des Bois, hein, de son époque. Mais bon, vous connaissez un autre qui peut-être a dû vivre comme cela aussi, et qui a été chassé. C'était David. David le fugitif. Et il nous dit que c'est des gens qui avaient des dettes, les gens qui étaient chassés, les gens qui étaient tout ça, les gens qui avaient des ennuis avec le roi. Il y avait jusqu'à 400 personnes avec David, hein, et dans le désert de Juda, et dans les cavernes, et tout cela. Donc il n'y a pas d'autre possibilité. C'était cet homme. Mais c'est cet homme-là qui est mentionné dans Hébreux chapitre 11, parmi les héros de la foi. Les noms que Dieu retient. En regardant l'histoire, en regardant l'Ancien Testament, eh bien, il recueille la crème. Voilà. Et parmi eux, eh bien, il y a Jephthé. Vous savez, une première chose que je veux souligner, c'est que ce n'est pas parce que nous n'avons rien à apporter au Seigneur que nous ne pouvons pas le servir. Parce que ce n'est pas une question de pouvoir venir avec moi, je viens d'une bonne famille, j'ai des talents, j'ai des diplômes, j'ai des ceci, j'ai de l'expérience, je viens d'une famille qui est connue, et donc moi je peux servir le Seigneur. Ça ne marche pas chez le Seigneur. Ce n'est pas ce que j'apporte au Seigneur qui fait de moi un héros, c'est ce que je permets au Seigneur de faire en moi et au travers de moi. Hein, c'est là la différence. C'est pour ça que même si j'ai rien, si j'ai rien à prétendre, je dis j'ai pas de famille et je ne sais pas exactement dans quelles conditions même je suis né, je ne sais rien du tout. Il dit mais c'est pas important, viens, laisse-moi faire dans ta vie, laisse-moi agir dans ta vie et je peux faire quelque chose de toi. Jephthé n'avait rien à proposer à Dieu, mais il s'est proposé à Dieu et Dieu a fait une œuvre chez lui. Et c'est un peu cela que nous voulons développer ce matin. Il nous dit au verset 4 qu'après quelque temps après qu'il l'ait chassé de la maison, eh bien tout d'un coup les ennuis sont arrivés. Les enfants d'Ammon, les fils d'Ammon, donc un peuple voisin, est venu, a commencé à attaquer Galaad, et eux ne savaient pas comment faire. Commence à se défendre, il dit, mais qui est-ce qui va nous défendre? Et tout cela. Et à qui est-ce qu'il pense? À Jephthé. Vous avez peut-être vécu ces situations où vous comptez pour rien, pas besoin de vous écouter. Puis après, tout d'un coup, ils sont dans le besoin, ils reviennent vous voir. Hein, peut-être vous l'avez vécu. Et vous savez quels sont les sentiments qu'on peut avoir. Il vient nous voir et puis dit, écoutez, on voudrait que toi tu viennes nous délivrer. Ben certainement qu'il s'est fait une réputation, Jephté, avec sa troupe. Ils avaient fait des coups et puis il avait montré des capacités de pouvoir mener des hommes. Et donc on vient le voir, on lui dit, écoute, Jephté, tu peux pas venir nous délivrer, on se fait attaquer par les fils d'Ammon, on ne sait pas comment faire. Et ben, s'il avait répondu selon la nature charnelle qu'on a, il aurait pu peut-être dire, écoutez, qui a pensé à moi quand j'étais dans la détresse? Il aurait pu dire, et moi, hein, quand on m'a jeté dehors, qui est-ce qui est venu me voir? Ou bien il aurait pu dire, écoutez, tant pis maintenant, c'est trop tard, vous m'avez chassé, vous débrouillez. Il aurait même pu être un peu plus méchant et dire, écoutez, c'est bien fait pour vous. Comme disaient les jeunes de chez nous à la banlieue, à Paris, hein, c'est chat. C'est bien fait pour toi. Ça vient de l'arabe. Hein. Alors, ils sont là et on dit, écoute, tu viens et tu nous délivres. Il dit, oui, mais bon, après, oui, je viens vous délivrer, et puis dès que je vous ai délivré, dès que ça va mieux, pss, dégage. Il dit, non, 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 tu pourras, si tu gagnes, tu pourras être notre chef. Jephté dit, on va s'engager devant Dieu. Parce que vous savez, des gens qui ne sont pas fidèles à Dieu, parce que c'est pour ça qu'il y a ce problème, hein. Lorsqu'on regarde dans le chapitre 10, je lis les versets 6 à 7, il dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals, les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des d'Amon, les dieux des Philistins, ils abandonnèrent l'Éternel et ils ne le servirent plus. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les vendit entre les mains des Philistins et entre les mains des fils d'Ammon. Donc c'est parce qu'ils s'étaient détournés de Dieu, ils avaient abandonné Dieu, que ces fils d'Ammon les avaient attaqués. Et au verset 15, il dit, les enfants d'Israël dirent à l'Éternel, nous avons péché, traite-nous comme il te plaira, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Vous avez déjà entendu des prières comme ça? Peut-être que vous en avez prié. Oh Seigneur, tu me sors de là, je viens à l'église. Et puis dès que ça va mieux, on vient à l'église deux, trois dimanches, et puis après, tout d'un coup, oh, je suis trop occupé, j'ai du travail, je m'en sors plus. Et puis, on disparaît jusqu'à la prochaine tempête. Hein? Les enfants d'Israël, ils ont la même nature que nous. Et il nous dit même, hein, pour montrer qu'ils étaient sincères, seulement daigne nous délivrer aujourd'hui. Ils ôtèrent les dieux étrangers du milieu d'eux, ils servirent l'Éternel, ils furent touchés, qui fut touché des maux d'Israël. Dieu, il pardonne toujours, c'est sûr. Mais Jephté se dit, oui, mais des gens qui ne sont pas capables d'être fidèles à Dieu, ils ne seront pas fidèles à leurs paroles à moi. Je répète, des gens qui ne peuvent pas être fidèles à Dieu ne seront pas fidèles à des hommes. Vous sentez tout d'un coup toute amoureuse d'un homme qui ne sait pas suivre Dieu, qui l'abandonne. Sachez qu'un jour, il vous abandonnera aussi. Hein. Celui qui n'a pas été fidèle à son épouse ne vous sera pas fidèle. Ou on est fidèle et partout, ou on n'est pas fidèle. Et Jephté dit, moi, écoutez, on va aller devant Dieu, parce que voilà, votre promesse là, c'est parce que vous êtes dans la détresse, vous faites des promesses, mais moi, je ne compte pas dessus. On va aller faire ça. Et alors, il les emmène à Mitzpah. Là, Jephté met tout dans la perspective du plan de Dieu. Verset 11, il dit, et Jephté partit avec les anciens de Galaad. Le peuple le mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephté répéta devant l'Éternel, voilà, Jephté répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Il dit, on va faire le contrat devant Dieu. Mitzpah, c'était l'endroit où, si vous vous souvenez, en Genèse, c'était là où Laban et Jacob avait traité. Il a dit, écoute, tu ne viens pas plus loin qu'ici, moi je ne vais pas plus loin dans l'autre sens, et on va s'entendre comme cela. C'était à Mitzpah, là, qu'ils y avaient fait cela. Donc c'est un endroit où il y a eu, déjà eu un serment devant Dieu, et c'est là qu'il dit, écoute, j'invoque le nom de Dieu. Plus tard, vous regardez un peu plus tard, c'est quand il y a eu des problèmes avec Benjamin, c'est à Mitzpah qu'ils se sont rencontrés devant Dieu aussi. Donc Mitzpah était un endroit qui était reconnu à l'époque, un endroit où on prenait des alliances devant Dieu. Donc on dit, Jephté, tu es chef. Jephté prend la situation en main. La première chose, il dit, bon, bah, puisque je suis chef, je sais faire, j'ai une troupe, je sais aller, on va aller faire la guerre. Non, il s'arrête. Et puis il envoie, il commence à discuter avec les fils d'Amon. Il dit, écoutez, pourquoi vous nous attaquez? Pourquoi? Alors ils ont été dire, oui, mais parce que quand vous êtes venus de l'Égypte, vous êtes venus, vous avez pris notre territoire, et ceci, ils ont raconté les choses. Et puis alors moi, je vous fais le résumé de ce qui a marqué. Et alors lui, il répond, il dit, mais c'est pas du tout comme cela. Parce que les fils d'Amon, c'est les descendants de Lot. Et dans l'esprit du peuple juif, c'est la famille. Donc les filles, le Moab et les fils de Béniami, les Ammonites, eh bien, c'est la famille. Quand les enfants d'Israël sont arrivés, ils ont contourné ces territoires. Et ils n'ont jamais pris leur territoire. Ils disent, c'est pas vrai. Et puis en plus, ça fait 300 ans depuis. C'est maintenant que vous vous rendez compte que vous avez pris votre territoire. N'importe quoi, c'est ça qu'on dirait aujourd'hui. Et alors... Jephté va aller, parce que c'est juste, c'est devant l'Éternel. Et la raison pour laquelle les fils d'Amon attaquent Israël, c'est à cause, parce qu'Israël a abandonné Dieu. Ils se sont débarrassés de leur Dieu, ils reviennent à Dieu, donc Dieu s'occupe de la situation. Et l'Éternel approuve la démarche de Jephté. Au verset 29, il dit « L'Esprit de Dieu fut sur Jephté ». Et parce que c'était un chef de petite bande, il ne vient pas avec les grands pouvoirs, ils n'avaient pas les chars et l'aviation à l'époque. Et bien lui, il emploie les moyens qu'il a. Au lieu d'aller confronter, parce que les fils d'Amon font la guerre en Israël, sur le territoire d'Israël, ben lui, il est passé par le nord, il est passé dans les petites vallées, il a fait le tour et il est rentré par la porte arrière du territoire d'Amon. Et comme toute l'armée était ailleurs, il n'y avait personne pour défendre les villes. Il a vite pris une vingtaine de villes et c'était la fin. Il a réglé la situation très rapidement avec très peu d'hommes et il a pu remporter la victoire. Bien sûr, ça c'est le côté humain. Le côté spirituel, c'est que Dieu était avec lui. C'est étonnant comment, avec les petits moyens, quand on a Dieu avec nous, on peut aller loin. Ne méprisons pas les petits moyens. Parce que les petits moyens entre les mains de Dieu, c'est comme les 5 pains et 2 poissons entre les mains de Jésus, ça va loin. Et donc, mais si on essaye tout seul de faire les choses, c'est sûr que ça va être dur. Même l'Amérique, avec les grands moyens, ils n'arrivent pas à faire les choses. Alors, tandis que nous, avec les petits moyens, le Seigneur nous donne la victoire. Vous savez, l'Éternel a été, Jephté a été envoyé pour être un libérateur des enfants d'Israël. Et dans 1 Samuel chapitre 12, verset 11, eh bien, Samuel va le mentionner parmi la liste des gens qui ont été des libérateurs. Parce que Samuel, vous savez, là, dans le chapitre 12, les enfants d'Israël demandent un roi. Il dit, pourquoi vous avez besoin d'un roi? Quand vous avez eu besoin d'un libérateur, Dieu vous a envoyé. Et puis il a dit, mais regardez, pensez à Gédéon, pensez à Badan, pensez à Jephté, pensez à Samuel. Il était là pour vous délivrer. Dieu était là pour vous délivrer. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un roi? Vous croyez que ce que lui pourvoit n'est pas assez? Vous savez, en tant que chrétien, on a les mêmes problèmes des fois. On trouve que les moyens du Seigneur ne sont pas assez. Prier. Prier, ça n'a rien, il faut que je cours un peu aussi. Prie d'abord, et après, quand tu courras, ça portera quelque chose. Mais si tu cours seulement, tu vas courir en rond. Tu vas faire les 100 pas, Mais ce n'est pas les 100 pas qui apportent les solutions. C'est comme une fois, il y avait une église qui cherchait un pasteur. Alors, on leur a envoyé une feuille avec des informations. On dit, qu'est-ce que vous voulez comme pasteur? Décrivez le profil de votre pasteur. Parce que vous savez, il y a des églises qui disent, ben, nous, on a des jeunes, on voudrait un jeune pasteur. Il y en a qui disent, non, non, nous, on voudrait un pasteur mûr et tout ça. Puis, il y en a d'autres qui disent, on veut un pasteur qui a fait des études. D'autres, ils disent, non, non, on veut quelqu'un de simple. Bon, ça dépend, hein, il y a de tout, hein, vous le savez. Et alors, ils ont dit, qu'est-ce que vous voulez? Et les responsables de l'église sont rassemblés, ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on va mettre? Et ils ont dit, ben, on voudrait un qui, quand il se met à genoux, il touche le ciel. C'est ça la force. C'est pas les, c'est... Et vous savez, les moyens de Dieu, quand on confie les choses à Dieu, moi je l'ai vu, maintenant ça fait 40 ans que je suis dans le ministère, et bien maintenant je suis devenu vraiment croyant. Quand j'ai commencé, j'étais croyant. J'affirmais les choses parce que c'était marqué dans la Bible. Maintenant j'affirme les choses parce que j'ai la Bible, mais en plus j'ai dit, j'ai vu marcher, j'ai vu, ça se fait, ça marche. Dieu prend des vies, les transforme. Des situations que l'assistance sociale ne peut pas démêler, le Seigneur arrive. Et il met de l'ordre. Mais il dit d'abord, tu places les choses entre mes mains. Je touche pas. Tant que tu ne me le remets pas, je touche pas. Tu peux crier, tu peux danser, tu peux louer, tu peux faire toutes sortes de choses, tu cites des versets bibliques, tu vas à l'église, tu fais tout ce que là. Mais tant que tu ne remets pas la situation entre mes mains, je ne touche pas. Savez, dans la prière du Seigneur, les disciples ont dit, comment est-ce qu'on prie? Il a dit, écoutez, je vais vous donner une petite prière simple, modèle. Ça commence par Notre Père qui est aux cieux. Et puis ça passe tout de suite à que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. C'est-à-dire que ton nom soit mis au centre. Que ton nom devienne prééminent. Hein, on pense toujours à sanctifier, c'est mettre à part. Non, c'est mettre à part, c'est-à-dire se mettre dans le centre. Le tabernacle, quand ils ont consacré le tabernacle, ils ne l'ont pas mis en bordure du camp, ils l'ont mis au centre du camp. C'est comme ça qu'on sanctifie le nom de Dieu, c'est de le mettre au centre du camp, au centre de notre vie. Et donc, Jephté, quand on lui a remis la situation, ben, la première chose, il a dit, d'abord, on passe à Mitzpah. Mitzpah, il fallait qu'il fasse marche arrière avant de partir faire les fils d'Ammon. Mitzpah, c'était un retour. Mais il a dit, on passe à Mitzpah d'abord. On met les choses devant Dieu. Et puis ensuite, on partira. Il comptait plus sur Dieu que sur l'engagement de ses galadites. Un point qui gêne parfois les gens quand ils lisent l'histoire de Jephté, c'est cette parole, cette formulation malencontreuse, quand il a dit, Dieu, si tu me ramènes la victoire, je t'offre la première chose qui sort de la maison. Je ne sais pas ce qu'il pensait quand il a dit ça, mais il a... Vous savez, si vous faites une promesse à Dieu, réfléchissez bien d'abord. Parce que... Il a dit comme ça, il a dit la première chose qui sort de ma maison, je te l'offre en sacrifice, en holocauste. Et quand il est revenu, c'était sa fille, sa seule, sa fille unique qui est sortie. Hein, donc, il était un peu embêté là. Mais il s'est senti engagé parce qu'il avait fait une promesse à Dieu. Et c'est vrai que l'Écriture, hein, Nombre 30, verset 2, il nous dit quand tu fais une promesse à Dieu, tu fais un vœu à Dieu, il faut le garder. Tu es engagé. Mais d'un autre côté, en gardant son engagement, il faisait une chose qui était contraire à l'enseignement de Dieu. Il désobéissait Dieu parce qu'il offrait son enfant. Hein, c'était par la suite, les enfants d'Israël ont offert leurs enfants, mais à Moloch, à autre chose. C'était par désobéissance à Dieu. On n'offre pas ses enfants en obéissance. C'est une désobéissance. Alors, d'un côté, Dieu dit, quand tu fais un vœu, il faut que le garder. Tu fais une promesse à Dieu, tu le gardes, et d'un autre côté, tu n'offres pas un enfant. Et Jephté était un peu dans l'embarras là. Si Israël avait été un peu plus spirituel à l'époque, si la situation avait été un peu meilleure, Jephté aurait su, ou il y aurait eu un lévite qui lui aurait dit, mais tu n'es pas obligé de l'offrir. Parce que Dieu avait prévu un moyen de racheter. Hein, si on avait promis un enfant, ben on pouvait racheter l'enfant et offrir à Dieu. Je vous laisse lire ça dans Lévitique chapitre 27 et versets 1 à 13. Dieu a prévu et il y a tout un système qui permet de mettre une valeur sur une personne, si c'était un enfant, si c'était une personne, si c'était un animal, si c'était, il mettait une valeur, il a dit tu peux racheter. Et Jephté aurait pu racheter sa fille et ensuite offrir autre chose. Mais vous savez, quand on ne va pas spirituellement, hein, quand on est loin du Seigneur, quand on n'est pas dans l'enseignement du Seigneur, et dis-moi j'aime le Seigneur, ça me suffit, ça ne suffit pas, si tu ne sais pas ce qu'il pense, tu vas faire des bêtises comme Jephté. Il avait une confiance en Dieu, mais il n'avait pas une connaissance de ce que Dieu avait prévu. Et alors il est obligé de faire une bêtise. Mais ce que je veux souligner, c'est réfléchissez bien avant de faire une promesse à Dieu. D'abord, ne lui promettez pas ce qui n'est pas à vous. Sa fille, c'est sa fille, parce qu'elle est née de lui, mais elle n'est pas sa propriété. Hein? Nos enfants sont la propriété de Dieu, du Seigneur. Hein? C'est de là que vient la vie. N'offrez pas quelque chose à Dieu. C'est Jésus, plus tard, il dira aux pharisiens, il dit, mais jurez pas par l'or du temple, l'or de l'autel, il dit, mais l'or de l'autel, il vaut rien, c'est seulement parce qu'il appartient à l'autel, donc c'est l'autel, mais l'autel, il n'est pas à vous, vous pouvez pas, ne jurez pas par votre tête, vous ne pouvez pas même pas empêcher que les cheveux tombent, hein. Bon, il y a certains qui le savent, mais vous n'avez aucun contrôle, vous jurez par quelque chose qui n'est pas à vous, vous n'avez pas le droit. Et puis lorsqu'on réfléchit, mais qu'est-ce qui m'appartient? Qu'est-ce que je peux offrir? J'ai que ma vie. J'ai que mon avenir. Ce que ma volonté me permet de faire. Et je peux dire, Dieu, je te donne ma volonté. Je la soumets à ta tienne. Mais ne promettons pas l'impossible. Dieu, mais écoute, y en a qui disent, hein, j'ai déjà eu, hein, ça m'est arrivé. Écoute, donne-moi un numéro pour l'auto. Si je gagne, je donne 10% à l'église. Ça a l'air d'une bonne affaire. J'ai dit, oui, mais tu remercieras qui après? Ou tu viendras me voir pour un deuxième numéro, ou bien tu remercieras la Française des Jeux. Mais c'est pas Dieu que tu remercieras. Et Dieu n'a pas besoin de l'argent acquis de cette manière-là. Il veut que ce soit quelque chose qui t'a coûté. David a dit, Seigneur, je te donnerai rien de qui ne m'a pas coûté. Et donc, faisons attention à ce que nous promettons à Dieu. Et que ce soit dans nos moyens, que ce soit disponible. Une épouse qui fait une promesse, mais après son mari n'est pas d'accord, elle dit, ah, mais comment, Seigneur, j'ai promis au Seigneur, et puis mon mari n'est pas d'accord. Promettez ce que vous pouvez promettre. Mais ensuite, gardez la promesse. Mais je veux terminer en pensant au foyer de Jephté. Jephté, quand même, écoutez ce que dit sa fille lorsqu'elle apprend. Elle sort de la maison et le père dit, oh ma fille, oh, qu'est-ce que tu m'as fait? Des quoi, papa? Et j'ai promis que la première chose qui sortirait de la maison, je l'offrirais à Dieu. Ben dit, papa, tu as promis à Dieu, tu le fais. C'est extraordinaire. Ben, s'il y a eu une éducation là, sinon la fille n'aurait pas parlé comme ça. Elle a un grand respect pour Dieu. Elle a été élevée à respecter Dieu. Et je vous l'ai dit, c'était une période où les enfants d'Israël étaient tous détournés de Dieu. C'était l'idolâtrie de partout. Mais Jephté, ce qui est extraordinaire, c'est Jephté, avec ce qui lui était arrivé, il a grandi sans être aimé, et puis après, on l'a chassé, il doit se débrouiller comme il peut. Eh bien, il s'est débrouillé pour avoir une petite famille, il a une fille seulement. Eh bien, il l'a élevée dans la crainte de Dieu. Il n'a pas laissé l'amertume se développer dans son cœur, mais il a éduqué sa fille dans la crainte de Dieu, au point qu'elle était prête. Et elle avait une réputation parce que quand elle a compris cela, elle dit: Papa, écoute, donne-moi 2 mois avant d'exécuter. Donne-moi 2 mois pour que je pleure ma virginité avec les autres filles. Et ces filles qui avaient un grand respect pour elle, elles l'ont accompagnée pendant 2 mois. Elle a été entourée par des autres filles. Et au point que par la suite, eh bien, tous les ans, il y avait 4 jours consacrés à la fille de Jephté. Parce que c'était, ils ont trouvé tellement triste qu'une fille si pure, une fille si fidèle à Dieu, et qu'elle soit privée du privilège de devenir mère, et qu'elle meure dans sa jeunesse. Ils ont trouvé ça, et ça les a marqués, et c'est devenu une coutume en Israël. Tous les ans, il y avait 4 jours qui étaient consacrés aux jeunes filles. Vous savez, ne prenez pas comme excuse des choses qui vous sont arrivées dans l'enfance, les conditions de votre naissance, les conditions de la maison. Ah, notre famille, c'était du n'importe quoi. Et alors, bon, et voilà, puis on essaie de. Non, non, le Seigneur dit non, non. Écoute, ça c'est pas une excuse, c'est pas un problème. Tu viens, tu me donnes. C'est moi qui le fais. Que tu sois né, tu sois enfant de pasteur, que tu sois enfant de quelqu'un d'autre, peu importe les conditions de ta naissance et puis comment ça a été, tout ce que je te demande, moi, c'est que toi, tu te donnes à moi. Et moi, je travaille. Parce que l'enfant de pasteur, il n'a rien à apporter à Dieu. Il a eu le privilège de recevoir une éducation. Mais vous savez, et vous le savez, il y en a. Même avec tout ça, il se détourne de Dieu. Hein, c'est que ça garantit rien du tout. C'est leur choix personnel que chacun fait. Et Jephté, c'était un homme qui, malgré les difficultés qu'il a rencontrées, eh bien, il a décidé de vivre pour Dieu. Et puis, quand on avait besoin de l'aide de Dieu, on avait besoin d'un homme de Dieu, eh bien, on a été chercher Jephté. Et on dit: Jephté, tu sois notre chef. C'est toi qui vas nous délivrer. Vous savez, pourquoi est-ce que c'est un homme de foi? Est-ce qu'il a fait quelque chose de grand, d'extraordinaire? Non. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a placé toute chose entre les mains de Dieu. Il a fait confiance à Dieu. C'est à la portée de chacun d'entre nous d'être des héros de la foi. Parce qu'on n'est pas héros. Dans le monde, oui, si vous voulez être un héros national, là, il faut faire quelque chose. Mais si vous voulez être un héros de la foi chez Dieu, eh bien, c'est une question de place ses fois. Rab est mentionné dans Hébreux 11. Des gens très ordinaires sont là. David, un petit berger. D'autres. On parle d'Ésaïe, mais Ésaïe, qu'est-ce qu'il était avant? Et on parle de Jérémie, qu'est-ce qu'il était avant? Et puis on parle des petits prophètes, mais petits prophètes, mais c'est des grands hommes, hein, c'est les prophètes de Dieu. Vous savez, vous pouvez, c'est à votre portée, c'est à ma portée, de devenir un héros de la foi. Mais il suffit de placer ma vie entre les mains de Dieu et dire: Dieu, dorénavant, je vis pour toi. Et ce que tu veux, je le fais. J'ai rien à te t'offrir, sinon un cœur fatigué de souffrir. Mais je viens. Prions.